Grégoire Aogbonon, vous étiez il y a une vingtaine d'années réparateur de pneus et aujourd'hui on peut dire entre guillemets que vous êtes un réparateur de vie.
Depuis que j'ai commencé, je fais toujours confiance à la Providence. Parce que je me dis, dans notre église, il y a eu des hommes, des femmes qui ont eu à faire des choses extraordinaires. Mais ils n'ont pas eu 5 francs au début, mais ils ont fait des choses qui demeurent une histoire. Mais pour moi, Dieu n'est pas une histoire. Et lui-même, il s'est identifié à ses pauvres. Il s'occupera de ses pauvres. En tout cas, avec sa providence, on a réussi à construire le premier centre. On a commencé à recueillir tous les malades qui étaient dans la rue. Au vu des résultats qu'on continue à voir, les prêtres dans les villages, les religieuses vont commencer à nous faire appel. Et c'est là des choses qu'on ne pouvait pas imaginer à notre époque.
Qu'est-ce que vous avez vu?
L'un des premiers images que le Seigneur m'a permis de découvrir, c'est une dame qui est venue nous voir. « Monsieur, aidez-moi, mon frère est mentalement malade. » La veille de la fête des Rameaux 94, on la prend, on arrive dans son village. La dame va voir ses parents. Le papa a commencé à crier. « Pourquoi tu as envoyé des gens ici? Il est déjà pourri, ce n'est pas la peine. » J'ai dit « Un homme pourri, même s'il est pourri, je veux le voir. » Je ne pourrais jamais imaginer dans ma vie un jeune Dieu, 22 ans à peine, mais bloqué au sol, comme Jésus sur la croix, les deux pieds sur un tronc et les deux bras attachés avec fil de fer, mais totalement pourri, avec des asticots partout. Et il n'était pas mort. Ce soir-là, on a tout tenté pour le détacher, on n'a pas pu. Tous les fers sont rentrés dans la chair. On ne sait pas par où couper. On a dû faire demi-tour. Et c'est dimanche, jour des rameaux, avec une religieuse infirmière, avec des ferrailleurs qui nous ont donné des cisailles. Nous sommes répartis dans ce village. Difficilement, on a réussi à le détacher. Quand on a fini de le laver, de panser tout son corps, il me regarde et dit, « Monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. » Il me pose la question, « Est-ce que je peux être guéri ?» Mais il était tellement pourri qu'il est mort à la suite. Mais moi, pour moi, il est mort dignement comme un homme. Si vous voulez, c'est à partir de là qu'on va commencer à sillonner les villages, commencer à découvrir les différentes méthodes d'enchaînement. Parfois, c'est les deux pieds qu'on prend un tronc, on creuse un trou, deux trous dedans et on met les deux pieds dedans. Et il est bloqué comme ça. Parfois, c'est un bras. Parfois, c'est les deux bras. Parfois, c'est trois membres, deux pieds plus un bras. On lui laisse un bras pour, quand on vient leur jeter les restes de nourriture, ils prennent pour ramasser, pour manger. J'ai dit toujours, ce n'est pas la faute de la famille. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ce qui nous fait mal, qui nous révolte, ce sont les sectes. Dans nos pays d'Afrique, vous les voyez sur tous les carrefours qui promettent des miracles à tout le monde, des bonheurs sans arrêter. Et le traitement consiste à faire quoi? On envoie les malades dans leur centre, ils les enchaînent sous des arbres, sous la pluie, sous le soleil. Et le traitement consiste à faire souffrir le corps pour que le diable sorte. Il faut le priver d'eau et de nourriture. Et ça, on utilise le nom de Jésus.
Et alors, qu'est-ce que vous faites là, Grégoire?
Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu à rencontrer les responsables de ces centres. Ça n'a rien donné. Nous sommes allés rencontrer les autorités. Ça n'a rien donné. Nous sommes allés au tribunal pour aller dénoncer. Le procureur a envoyé des policiers. À la fin, on nous dit, oui, mais ce sont des fous. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous comprenez, lorsque vous tombez mentalement malade en Afrique, on peut faire de vous ce qu'on veut. Mais je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de ces sectes ont compris. Dès que quelqu'un tombe malade, c'est eux-mêmes qui leur indiquent maintenant le centre aller à Saint-Camille.
Alors maintenant, il y a combien de centres?
Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous avons 4 centres d'accueil et 6 centres de travail, donc 10 centres en tout. Au Bénin, nous avons 3 centres d'accueil et 3 centres de travail. Et le quatrième centre, il y a l'archevêque de Cotonou qui vient de donner 2 terrains dont on espère trouver l'argent d'ici là pour construire le centre d'accueil. Là, l'évêque de Padimé au Togo, lui aussi, il vient de donner un terrain où nous avons un projet. On souhaite que d'ici là, on puisse rapidement faire quelque chose là aussi. Au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, l'archevêque de Bobo a donné une grande maison. Ce qui est intéressant encore à vous dire, c'est le nonce qui est mort à Abidjan. Paix à son âme, c'est un saint homme. Ce monsieur, chaque fois quand il apprend que je suis arrivé à Abidjan, Grégoire, pardon, il y a trop de malades mentaux dans les rues d'Abidjan. Fais quelque chose. Il aimait trop les malades.
Alors Grégoire, il y a aussi quelque chose maintenant qu'il faut nous dire, parce que ce que vous faites, non seulement vous soignez, Vous allez chercher ces malades mentaux, vous les soignez, mais ce sont eux-mêmes qui prennent en charge les nouveaux malades que vous accueillez. Dites-nous, expliquez-nous, parce qu'on vient maintenant du monde entier vous voir en Afrique pour constater des choses absolument incroyables.
Oui, ma sœur, vraiment des choses incroyables. Mais tout ça, nous le devons au bon Dieu. Parce que moi, je vous ai dit que je ne connais rien. Je n'ai même pas eu la chance de faire des études. Je suis allé seulement jusqu'au CM2. Donc, c'est pour vous dire que je suis nul en tout. Je suis nul. Et je pense que Dieu, je dis toujours, si Dieu a voulu qu'un pauvre petit comme moi, qui ne connaît rien, s'il a voulu passer par moi pour lancer une telle activité, c'est pour demander à l'humanité d'ouvrir les yeux. Parce que ces hommes, ces femmes, je dis, ce sont des gens qui sont dépouillés de tout leur bien, de tout leur mental. Ces malades ne sont pas dangereux comme on le pense. Ils ne sont pas violents. Et je dirais même, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Dans nos centres, ce sont les malades guéris qui s'occupent des autres. Moi, je n'ai pas d'argent. On n'a aucune subvention, ni de l'État du Bénin, ni de l'État de la Côte d'Ivoire.
Comment expliquez-vous, Grégoire, que ces malades, après, puissent s'occuper des autres malades?
Mais ce sont des hommes comme tout le monde. Il suffit de leur faire confiance. Un jour, à Boaké, dans la petite chapelle, un jour, je n'avais pas d'argent pour payer celle qui venait pour faire leur cuisine. Et puis, je les ai regroupés tous. Je les ai dit, écoutez, aujourd'hui, priez beaucoup parce que je n'ai pas d'argent pour payer celle qui vient préparer pour vous. Et il y a un qui s'est levé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, monsieur, vous nous demandez de prier pour vous. Vous devez savoir que notre silence, c'est une grande prière pour vous. Moi qui vous parle, je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, des hommes allaient encore m'adresser la parole. Des hommes allaient encore s'arrêter devant moi, si ce n'est pas pour me jeter des pierres. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à vous, je vois des gens qui viennent même manger avec moi. Non, vous devez savoir que notre silence, c'est une prière pour vous. Et puis une dame s'est levée. Papa, il me dit, papa, mais quand j'étais pas malade, je faisais la cuisine à la maison. Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas faire notre cuisine? C'est à partir de là que j'ai compris qu'ils peuvent eux-mêmes s'autogérer.
Écoutez, comment expliquez-vous qu'on vienne de partout vous consulter?
Des malades qui étaient des élèves, je les envoie aux études, ils deviennent des infirmiers. Ils viennent, c'est eux-mêmes qui font les consultations. On a 5 présentement à l'école d'infirmiers au Burkina. Il faut leur faire confiance. Ce sont des gens qui sont capables de tout. Je dirais que je suis allé dans un hôpital en France où les malades qui ne sont pas à l'hôpital, qui sont dans un centre où ils appellent centre protégé, ils jouent, ils fument cigarettes. Je les ai passé le film. Vous savez, leur réaction, tous unanimes. Ce n'était pas les malades qui sont enchaînés qui les a marqués. Regardez en Afrique, voilà des malades qui travaillent. Nous ici, on nous paye pour ne pas déranger. Et j'ai dit, la meilleure manière de tuer un homme vivant, c'est de le payer à ne rien faire. Non, je pense que rendons grâce et priez pour moi. Priez pour moi. Et je pense que le moment est venu où chacun de nous doit prendre conscience. La chaîne, j'ai envoyé un peu partout dans le monde ce que vivent les malades en Afrique. Mais les autorités, les grands, personne ne bouge. L'OMS vient de sortir un papier. D'ici l'an 2020, la maladie mentale va être la maladie du siècle. Ça va devenir grave, une grande maladie dans le monde. Mais j'ai dit, et je le répète, si l'Église ne commence pas dès maintenant à s'organiser, à faire quelque chose pour ces pauvres, ce n'est pas nos autorités politiques qui vont penser à eux. Et je souhaite, comme l'Église déjà commence à le faire, que tous les chrétiens puissent se mobiliser pour voler à leur secours. Parce que ce même Jésus que nous cherchons dans les églises, ce même Jésus que nous allons rencontrer dans les sacrements, ce même Jésus, c'est lui qu'on délaisse dans nos rues. C'est lui qu'on abandonne sur nos chemins. C'est lui qui nous interpelle aujourd'hui.
Merci Grégoire.
Merci.